C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Bonjour et bienvenue sur Radio Scarpe Sensée, notre magazine aujourd'hui en mode rattrapage. Si vous n'étiez pas avec nous le dimanche 16 avril pour la journée verte à Douai, eh bien je vous propose de retrouver quelques-unes des rencontres réalisées sur le village associatif. Un village associatif avec comme thème générique l'eau et la préservation de l'eau. Et nous allons en parler avec Marianne. Marianne est créatrice et animatrice du Jardin de la Hêtre à Rimbaucourt dans le Douaisis. Une structure qui initie les jardiniers amateurs à la permaculture, à l'agroforesterie synthropique et à l'agroécologie. Autrement dit, des systèmes pour le jardin au naturel. Marianne est accompagnée de Tanguy, animateur au parc régional Scarpesco.
C'est un peu nouveau pour nous parce que c'est vrai qu'on regardait ça de loin. On n'a pas l'habitude dans le nord de manquer d'eau. Mais malgré tout, on s'en rend compte ces dernières années et les scientifiques nous montrent que ça va être l'évolution dans les années à venir. Et ben, l'eau devient également rare dans le Nord-Pas-de-Calais et en Scarpesco. Alors comment on fait ? Ben, déjà, nous, de notre côté, on essaye de mieux comprendre qu'est-ce qui est disponible en eau sur le territoire. Et après, malgré tout, il faut un petit peu changer nos façons de vivre. Et réfléchir comment être plus sobre en utilisation de l'eau. C'est utiliser l'eau quand il y en a vraiment besoin et pas quand il n'y en a pas besoin. C'est également, alors on va revenir sur le jardinage, mais on est sur la façon, comment on maintient dans son jardin de l'eau, en gardant de l'ombre, en limitant la température avec des arbres, en laissant pas le sol à nu. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et également, nous on le voit de façon très positive parce que quand on jardine de cette façon-là, eh ben, on attire les insectes, qui attirent les oiseaux, qui attirent toute la faune. Et donc, notre jardin contribue à maintenir les petits mammifères, les hérissons, les oiseaux.
On peut jardiner sans arroser, sans irriguer ?
C'est une question embarrassante parce qu'il y a des systèmes, en effet, qui vont permettre de limiter l'arrosage et de limiter l'usage de l'eau. Mais pour ça, c'est une évolution, en fait. On va vers un système, au départ, ce qu'on appelle un système de colonisation. Donc, c'est le tout début. On a un jardin, on a une friche, on a quelque chose. Et on va essayer d'arriver vers un système d'abondance. Mais tout ne se fait pas en 5 minutes. Et donc, progressivement, c'est aussi changer un peu les visions des choses. C'est-à-dire, pour beaucoup, le paillage, vous posez des feuilles au sol, ça paraît parfois encore impropre, alors qu'en effet, au contraire, ça apporte énormément de choses au sol. Et donc, c'est changer aussi parfois les mentalités pour montrer autre chose et pour permettre et limiter l'arrosage par ce biais.
La question, c'est quoi ? C'est à quel moment je prends l'eau dans le cycle de l'eau ?
C'est
vraiment à quel moment elle peut m'être utile et à quel moment il est concevable de la prélever en quelque sorte.
C'est ça, tout à fait. C'est dans ce sens-là, c'est d'essayer au maximum d'aggrader le sol, comme je disais. Un sol mort, il ne conserve presque pas d'eau. Un sol qui a de la matière organique, qui est aggradé, il est en capacité de conserver, de retenir 300 fois plus d'eau qu'un sol mort. Donc c'est tout ça qu'il faut faire réfléchir là-dessus et changer un peu les systèmes de culture.
Il faut le faire comprendre à qui ? Au jardinier lambda, au citoyen que nous sommes et qui nous intéressons à la vie de la terre, également à tous les maraîchers et puis de façon plus large au monde de l'agriculture. Et je parle bien d'agriculture et pas d'exploitant agricole.
À chacun d'entre nous, je crois. Et le meilleur moyen, c'est de le montrer aussi. Donc c'est un peu l'image du colibri. Chacun apporte un peu quelque chose dans ce sens, et je pense que le mieux c'est de pouvoir en parler, de pouvoir développer ces questions et progressivement de voir les choses se modifier, changer. Mais je dis ça touche chacun d'entre nous, hein, du jardinier lambda, du citoyen jusqu'au paysan.
Tanguy, il y a des espaces où on peut faire des choses et des espaces où on ne peut pas faire certaines choses. Est-ce que faut penser également l'usage en fonction de la nature du lieu, en quelque sorte? Est-ce que c'est des questions qu'on se pose quand on est gestionnaire d'un espace naturel?
Oui, en fait, il faut surtout arrêter de croire que l'eau est infinie et disponible quoi qu'il arrive. Et donc, du coup, il faut, quand on développe un usage localement, il faut d'abord comprendre quelle est la ressource et qu'on est plusieurs à l'utiliser en commun. Donc, du coup, nous, au sein de nos milieux naturels, on essaye de maintenir l'eau au maximum, évidemment pour que la nature puisse se développer correctement. Autour de nous, on essaye aussi d'échanger avec ceux qui gèrent les cours d'eau, les fossés. On essaye de travailler avec le monde agricole pour essayer de partager cette ressource. Finalement, c'est ce vers quoi on va tendre dans les années à venir. Probablement, on va devoir malgré tout dire voilà, la ressource, il y en a 100 unités et on se la partage entre nous. Il ne faut pas qu'on en consomme 101 unités parce que la 101e, elle n'existe pas. Donc voilà, donc ça c'est la première étape, et puis après la seconde, et ça va dans le sens de ce que Marianne explique, c'est comment on fait pour contribuer à ce que la ressource en eau réaugmente finalement, et qu'on ait finalement petit à petit 701e et 702e unité.
C'est-à-dire qu'une sobriété aujourd'hui peut nous amener de la ressource supplémentaire demain ?
Alors la sobriété, bien évidemment, va permettre, si on utilise moins d'eau, ça va faire plus d'eau qui va aller dans nos nappes. Et donc la ressource qu'on utilise tous, elle va se recharger, elle va être plus abondante. Donc c'est l'affaire de tous, comme disait Marianne. Tout le monde peut à son niveau utiliser un peu moins d'eau et aider à ce que l'eau rejoigne le sol et les nappes phréatiques.
De l'eau sur Terre, de façon générale, il ne s'en crée pas. Il y a toujours le même volume d'eau qui existe. Comment on fait pour que l'eau ne nous échappe pas, qu'elle ne parte pas ailleurs ? Et si elle ne part pas ailleurs, est-ce qu'elle ne va pas manquer ailleurs ? Comprenez le sens de ma question.
La question est un peu piège, mais dans l'idée, pour le dire le plus simplement possible, c'est la goutte d'eau, il faut la laisser s'infiltrer là où elle tombe. C'est un peu la logique de manière générale. Et elle ne manquera pas ailleurs parce qu'elle va rentrer dans son cycle, c'est-à-dire qu'elle va alimenter des plantes. Les plantes vont restituer une partie à l'atmosphère en transpirant. Elle va en restituer une partie au sol en mourant. Et voilà, il y a un cycle naturel qui va se faire et on va priver personne en faisant ça. C'est plutôt... On a une histoire qu'il ne faut pas juger, mais on a eu tendance à vouloir évacuer l'eau le plus vite possible vers les pays voisins et pour ce qui nous concerne, que ça arrive dans la mer du Nord au final. Et bien, là, on perturbe le cycle de l'eau en faisant ça. On évacue trop vite l'eau. Alors que si on arrive chacun à notre niveau à la maintenir, à lui permettre de s'infiltrer, bien, au contraire, ça profite à l'ensemble de la planète.
Au niveau de l'histoire, on peut rappeler des politiques hygiénistes qui étaient à l'époque nécessaires parce qu'on se disait, il faut sortir l'eau pour éviter l'arrivée des maladies. Aujourd'hui, on fait peut-être machine arrière en se disant comment on fait pour conserver cette eau. Mais si elle n'est pas là, on arrive quand même à produire. Est-ce qu'on arrive à alimenter la population s'il n'y a pas d'eau ? Enfin, si on a moins.
Justement, il y a des systèmes, alors aujourd'hui on parle d'ensemencement des nuages, bon, pour moi ce ne sont pas des systèmes de transition. La permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie syntropique sont des systèmes de transition. Et en effet, l'agroforesterie syntropique permet de recycler par exemple l'évapotranspiration d'un arbre, elle permet de conserver sur site cette transpiration et donc elle va permettre de faire rejaillir des ruisseaux et de refonctionner, de que tout un système refonctionne. Que c'est ça aujourd'hui, c'est qu'on a perturbé le cycle de l'eau et là c'est d'essayer de le conserver et surtout de le régénérer aussi en fait.
Faut créer de l'ombre.
Entre autres. Mais pas que. Après, c'est la foresterie syntropique, ce sont vraiment des scénarios très difficiles à mettre en place. Mais une fois qu'ils sont mis en place sur du long terme, justement, progressivement, ça va venir. Et en effet, il y aura là-dedans, dans ce système, il y a évidemment, comme le porte son nom, il y a des arbres qu'on plante, mais ce sont des productions fruitières, enfin, ce sont des productions alimentaires.
Aujourd'hui, on peut se satisfaire d'interdictions où il faut plutôt aller vers l'obligation, obliger des pratiques plutôt que d'en interdire certaines.
Je pense qu'il y a des pratiques qu'il vaut mieux pas utiliser du tout.
Donc, pour les interdire
mais c'est un peu mal parti. Mais dans le sens où, pour moi, l'ensemencement des nuages, c'est une chose qu'il faudrait interdire. Parce qu'il y a des systèmes réels qui sont faciles et qui sont naturels et qu'on doit mettre en place, en fait.
Alors, l'ensemencement des nuages, c'est quoi? C'est de générer de la pluie?
Oui, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. En fait, c'est de produire de la pluie à partir des nuages. Donc, c'est exciter le nuage pour qu'il produise de la pluie.
C'est ce que veut faire M. Musk, entre autres.
Oui, je ne voulais pas donner de nom, mais...
Voilà, ah non, mais on peut le dire.
Oui, oui, tout à fait.
Voilà, c'est les projets qui peuvent paraître dingues, mais comme ça paraissait dingue il y a peut-être 40 ans, de faire du tourisme dans l'espace, et aujourd'hui, c'est devenu une réalité.
Oui, c'est ça. Ce sont des réalités, mais qui, en fait, on devrait se passer de ces réalités-là pour pouvoir conserver et d'essayer au maximum de régénérer, que ce soit l'eau, que ce soit la Terre. Enfin, il y a énormément de choses qu'il faut remettre en place et qui sont en train d'être dégradées.
Les bassines, ça peut nous concerner, ça? Enfin, est-ce que cette question des bassines, elle se pose également aujourd'hui en région Hauts-de-France?
Alors la question du besoin, je pense qu'elle pourra être posée, hein, puisque comme Tanguy le disait, il y a quand même un assèchement des nappes phréatiques. Donc on va chercher des systèmes autres, mais quand on parle d'assèchement des nappes phréatiques, alors l'idée de les utiliser à ciel ouvert, c'est déjà contraire pour moi à un système de régénération. Donc non, je pense qu'il y a des systèmes simples, et le problème parfois ce serait juste de faire des tables rondes, même d'un point de vue politique, ce serait d'asseoir les gens ensemble qui sont compétents dans ces domaines et de les réunir. Et je pense qu'autant un paysan qu'un citoyen veut la même chose, mais là on parle d'espace énorme et surtout à l'heure de l'assèchement des nappes phréatiques. Enfin, pour moi ça me paraît complètement fou de penser à des méga bassines par exemple.
C'est compliqué que de dire il y a des choses qui existent, mais on ne les met pas en œuvre.
Bah après, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à la logique des bassines, finalement, une bassine, c'est un plan d'eau. Et au-delà des expertises de scientifiques, il y a aussi une question de bon sens, je pense. De ces années de sécheresse, en ce moment, on a beaucoup de coups de fil des propriétaires de petits étangs qui sont très malheureux de voir le niveau d'eau baisser à tel point que parfois les poissons meurent. C'est ça en fait, hein, sur notre territoire, on a des bassines entre guillemets, on a des milliers d'étangs, et on voit bien qu'ils souffrent ces étangs, on voit bien qu'il y a beaucoup d'évaporation, il y a moins d'eau dans les nappes, et que du coup c'est très difficile de maintenir les niveaux d'eau. Et à un moment donné, pourquoi créer des choses où le volume d'eau risque de s'évaporer, va pas être présent au bon moment, et pourquoi on contribue pas tous à réalimenter nos nappes phréatiques dans lesquelles on peut tous bénéficier de sa présence. C'est un petit peu l'idée, ça. La bassine, c'est un principe un petit peu étonnant parce que ça capte l'eau pour un nombre réduit de personnes et en plus ça perturbe encore le cycle de l'eau naturel et ça empêche un peu de réalimenter nos nappes alors que c'est cela dont on a besoin aujourd'hui.
Quand un parc naturel véhicule son nom à travers deux cours d'eau, ça place également la problématique de l'eau au cœur de ses préoccupations.
Le parc naturel régional Scarpe-Escaut, effectivement, c'est la confluence entre l'Escaut qui rejoint la mer du Nord et la Scarpe, un de ses principaux affluents dans le département. Ce qui fait notre particularité, c'est tout ce réseau de zones humides qui sont associées à nos fossés et à nos cours d'eau. Et donc voilà, c'est notre enjeu, c'est un de nos défis pour les années à venir, c'est de contribuer à la gestion de l'eau pour préserver nos milieux naturels qui nous rendent tant de services. On ne se rend pas toujours compte, mais... au cœur de la plaine de la Scarpe, quand on habite Vendigny-Amage, Annon, Saint-Amand, eh ben, l'eau, on ne la voit pas toujours, mais elle est entre 1 et 3 mètres sous nos pieds. Et ces dernières années, la tendance à être plutôt entre 2 et 4 mètres. Et c'est là où on commence à avoir un peu plus de difficultés. Nos plantes doivent aller chercher l'eau plus profondément, les étangs y baissent, etc., etc.
Tanguy, animateur au parc régional Scarpe-Escaut, et Marianne, animatrice et créatrice du Jardin de la Hêtre à Rimbaucourt. Retour sur la journée verte dans la puce à l'oreille, on se retrouve dans un instant.
D'ici on voit le vent s'essouffler sur la terre et sur les toits brûlants. Inondés de lumière, c'est arrêter le temps comme après une guerre. Ici en te perdant, j'ai gagné le désert. Alors pourquoi ce froid au fond de mes entrailles, ce vide dans mes bras, ce silence glacial, cette absence immobile, cette attente givrée et mon cœur imbécile. Ces rêves gercés, tu me manques tellement, 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 tu me manques que le temps se disloque, que ma vie est en loc. Le reste c'est du vent, tu
me manque tellement que ma vie c'est du vent. D'ici plus aucun bruit pour venir perturber ma douleur et son cri à jamais étouffé. Aucun oiseau allègre ne viendra plus chanter dessus les bras trop maigres des arbres décharnés. Le soleil a rongé la ligne d'horizon, tout est sec et brûlé, a perdu la raison. Mais j'ai ce froid amer et une saison triste, et toujours cet hiver dans mon ventre persiste. Tu me manques tellement, 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 tellement. Tu me manques que le temps se disloque, que ma vie est en loc. Le reste c'est du vent. Tu me manques tellement que ma vie c'est du vent. Le vent s'est soufflé sur la terre et sur les toits brûlants, inondés de lumière. C'est arrêter le temps comme après une guerre. Ici en te perdant, j'ai gagné le désert. Tu me manques tellement, 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 tellement. Tu me manques.
Jamais d'ici, aujourd'hui, dans La Puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé. Retour sur la journée verte du 16 avril 2023 à Douai, place Satamé, sur le village associatif. Et nous allons y retrouver Valérie Loin. Valérie Loin est naturopathe.
Une naturopathe, en fait, elle fait la prévention. L'alimentation, tout ce qui est médecine naturelle. Et c'est apprendre à se soigner naturellement et bien se nourrir sainement. Et je suis vraiment spécialisée dans l'aromathérapie et les fleurs de Bac aussi. Donc j'agis beaucoup sur l'émotionnel parce que le corps et l'esprit sont liés. Et on prend la personne d'une façon donc, globale. Donc on tient compte de ses émotions. Voilà,
c'est apprendre à savoir s'écouter avant tout.
Oui, c'est très important. Écouter soi-même et son corps. Et voilà, c'est pour ça que la prévention, c'est vraiment essentiel. Donc, bien se nourrir, penser à soi, être zen.
voilà. Aujourd'hui, vous proposez donc de réaliser des gels douches dans cette journée verte consacrée à l'eau. Alors, il faut d'abord apprendre, peut-être, à prendre une douche responsable.
Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a mis d'ailleurs un petit panneau où on apprend les gestes tout simples, c'est-à-dire pas prendre des douches plus de 5 minutes. Par exemple, quand on se brosse les dents, éteindre le robinet. Donc se laver les mains, etc. Donc, c'est vraiment important d'économiser l'eau pour notre planète. Ça, c'est vraiment un geste essentiel. Donc, on en parle justement dans l'atelier.
C'est compliqué que de faire un shampoing, un gel douche ?
Non, c'est très simple. On met quelques ingrédients. Après, on met des petites flagrances pour avoir de l'odeur, des petits produits naturels pour avoir de la couleur. Mais c'est vraiment très simple. Vous avez 2-3 produits et vous faites votre gel douche vous-même, quoi.
Ça lave ?
Oui, vous pourrez, si vous voulez, vous venez en faire un et vous pourrez tester chez vous.
Ça mousse ?
Oui, un peu, oui, si, mais c'est pas, voilà,
ça mousse. C'est pas parce que ça mousse que ça marche mieux ?
Oui, non, ça veut rien dire.
Alors pourquoi on fait mousser les savons ?
Mousser les savons, parce qu'on met plein de produits chimiques aussi, hein. C'est ça aussi, parfois il y a des savons qui sont remplis de produits chimiques et du coup, C'est pour que ce soit mieux pour la peau, le corps, mais c'est pas toujours utile. C'est pas ça qui va laver, quoi.
Ouais. Donc, c'est grave que d'avoir une peau grasse. Généralement, on dit ah, la peau grasse, c'est pas bien. C'est grave si on a la peau grasse.
Non, non. Après, on peut utiliser des produits justement pour limiter ça, notamment dans les huiles végétales, ou prendre des gels douches qui respectent la peau avant tout. Le pH, ça c'est super important. Donc voilà, il y a toujours possibilité justement, et c'est ça la naturopathie, c'est qu'on tient compte du type de peau de la personne.
Ouais. Par contre, une peau sèche, ça peut poser souci de temps en temps.
Bah, là, du coup, il faut mettre des corps gras, donc se laver avec un savon plutôt gras et prendre après des produits, des huiles végétales pour vraiment entretenir sa peau, et aussi de l'intérieur. Prendre des huiles végétales et les avaler, c'est des gélules ou des huiles pour les salades, pour en ingérer aussi de l'intérieur.
Ça coûte cher quand on commence à fabriquer par soi-même, ou alors on fait des économies?
Ah oui, non, on fait des économies. Ouais. Surtout si on prend des grandes quantités. Voilà, et puis c'est surtout avoir la fierté de faire son produit soi-même. Ça, c'est super important. Et puis de se dire que c'est des produits naturels, quoi. Qu'on n'a pas du pétrole ou des produits chimiques dans le gel douche ou dans les produits qu'on confectionne soi-même. C'est une fierté. Et puis on fait un geste éco-citoyen.
Ce sont des produits d'usage quotidien. Quand on commence à fabriquer, on fabrique quoi? Pour le mois, pour la semaine, pour...
On peut carrément à la semaine ou au mois. Je veux dire, il faut juste faire attention à la conservation, puisque c'est naturel. Il y a parfois une conservation qui est vraiment à respecter. Hein, donc, soit quelques mois, en général, c'est 1, 2 mois ou 4 mois maximum. Ça dépend de ce qu'on confectionne. C'est toujours ça qu'il faut regarder, en fait. Hein.
Mais un savon artisanal, généralement, il conserve ou il va finir?
Oui. Alors, un savon, c'est différent. Oui. Ouais. Voilà, je veux dire, ici, c'est parce qu'on a utilisé de l'hydrolat, qui est de l'eau. Et donc, du coup, il y a une conservation qui est limitée. Donc, alors on met un petit conservateur, mais voilà, c'est quand même limité.
Les produits, la matière première, on la trouve où?
Alors on peut les trouver dans les magasins bio ou dans des magasins spécialisés. Voilà, ça dépend vraiment où on habite, voilà, mais on peut en trouver magasins bio, magasins spécialisés, ou parfois sur des sites internet, j'ose pas trop le dire. Mais...
Ouais. Alors, tout à l'heure, il y avait des enfants à votre stand, ouais. Pas mal d'enfants qui ont réalisé pour la première fois leur gel douche.
Oui, ah oui. Et c'est très ludique. Hein. Mais il n'y avait pas que des enfants, il y a des personnes âgées aussi qui étaient vraiment contentes de réaliser aussi leur gel douche. Mais oui, c'est très ludique en fait.
C'est-à-dire que d'un seul coup, le geste qui va permettre d'avoir le produit respectueux, ouais, du corps, respectueux de la peau, respectueux également de l'environnement, ça devient un moment d'amusement.
Oui, tout à fait. Parce qu'on fait ça soi-même et on se dit qu'on respecte la nature. Après, on réutilise le petit pot et on a envie de faire soi-même. Et voilà, on sait que c'est naturel, sans produits chimiques. Et... C'est un geste pour la planète.
Ça peut devenir un temps pour la famille, finalement, que de se retrouver dans un moment partagé, dans une activité commune.
Ah oui, oui, c'est important. D'ailleurs, je fais beaucoup d'ateliers famille, ateliers parents-enfants, et je trouve ça magique de pouvoir justement faire ça en famille, même entre amis, entre collègues. Voilà.
Ouais. Ça devient une habitude. Après, on a du mal à repasser aux produits vendus dans le commerce.
Ah ouais, non, c'est plus possible. Surtout quand on sait ce qu'il y a dans certains produits. Ouais, c'est sûr. Au moins, quand on fait nos produits nous-mêmes, on sait ce qu'on met dedans. Et ça, c'est primordial.
Voilà. Vous avez, vous, franchi le cap à quel moment? Qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Il y a déjà pas mal de temps. Bah, parce qu'en fait, déjà, à la base... J'avais créé en 2000 une ferme pédagogique. On faisait beaucoup d'ateliers d'éducation environnement, respect
c'était
de la nature.
Où, ça?
À Ouarlin, mais bon, voilà, c'était une association qui a pris fin. Et du coup, ça a toujours été dans mes gestes quotidiens de respecter l'eau, la nature, l'environnement. Et voilà, et j'ai toujours une passion pour la médecine aussi naturelle. Donc forcément, même faire moi-même certains produits, la cuisine, etc. Donc c'est quelque chose, quand on commence, on a envie de découvrir plein d'autres choses, quoi. Comme je fais par exemple les huiles végétales pour le visage, je fais découvrir aux personnes, c'est vraiment très simple et on peut choisir vraiment l'huile végétale et l'huile essentielle adaptée à son visage par exemple, voyez.
C'est une vie qui permet finalement d'être plus en prévention, parce qu'on ne peut pas se passer non plus des médecins de la médecine. Ouais. Enfin, voilà, quand on est malade, il faut soigner. Par contre, on peut apprendre à ne pas tomber malade, en quelque sorte.
Voilà, c'est de la prévention, mais ça peut être aussi curatif. Par exemple, vous avez un gros rhume. Moi, je vais vous conseiller qu'est-ce qu'il faut faire, justement, avec les huiles essentielles, avec la phytothérapie, enfin certains produits, la gémo, qui pourront vous aider justement à combattre ce rhume pour pas que ça tombe, par exemple, en bronchite ou que ça aille beaucoup plus loin.
Voilà. Après, ou là où forcément il y aura besoin d'une autre médecine qui peut-être n'est pas aussi naturelle que ce que l'on peut avoir dès le début.
Oui. Chaque personne est différente et voilà, il faut prendre vraiment en compte la globalité de la personne dans son entièreté et savoir justement qu'est-ce qu'elle a comme traitement, etc. Mais c'est sûr que c'est une prévention et même, je veux dire, on peut soigner quelques, comme je vous dis, un rhume ou un eczéma ou des choses, des problèmes de peau, par exemple. Vous voyez, ça, on peut faire pas mal de choses quand même en naturopathie. Enfin, c'est quelques exemples parmi d'autres.
Ouais. Comment ça se fait que les gens deviennent de plus en plus allergiques à la nature? Là, on est en pleine période des pollens. Qu'est-ce qui fait on a parfois de l'intolérance, alors qu'avant, j'ai l'impression qu'on... Les gens étaient malades, mais on n'en parlait pas. Ou alors, il s'est passé des trucs où on a mélangé des choses qui, aujourd'hui, font que notre organisme n'est plus capable de supporter ce qu'il pouvait supporter hier.
Ça, c'est toujours... Une personne est différente. Et moi, je parle toujours de l'immunité aussi de la personne. Je veux dire... Donc ça joue beaucoup par rapport aux allergiques. Par exemple, si on prend soin de sa santé, les intestins, on en parle beaucoup. Par exemple, l'alimentation, se soigner naturellement, du coup, on aura peut-être moins d'allergies. Après, il y a tellement de sortes d'allergies que c'est très compliqué de vous en parler là. Mais en règle générale, je dirais que l'immunité est importante. Et même l'état moral de la personne, le stress. Parce qu'on sait maintenant, et on a des preuves scientifiques, c'est que, par exemple, le stress fait baisser l'immunité. Vous voyez, donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc c'est avant tout avoir une bonne santé pour éviter justement l'allergie ou d'autres choses. Mais après, chaque situation est différente, chaque personne est différente.
Vous étiez déjà présente sur les éditions précédentes des Journées Vertes à Douai?
Non, mais j'ai déjà fait pas mal de stands autour de la nature, de l'environnement. Aujourd'hui, c'est ma première et j'en suis ravie.
Alors, votre sensation, on a l'impression justement ici d'être dans un village installé dans la ville.
Oui, tout à fait. Très fleuri, très agréable, très beau. C'est très convivial.
Avec du soleil.
Oui, en plus avec du soleil. Et nous, on a énormément de gens qui viennent nous demander justement.
Il faut juste se couvrir. Il faut apprendre également à se couvrir, à ne pas prendre froid.
Oui, voilà, tout à fait.
Ne pas avoir également trop chaud, venir. Ouais. Et puis, ça va reprendre du temps, se poser ici.
C'est important. Penser à soi avant tout.
Ouais.
Ouais. Et prendre un moment pour soi. Donc, les gens qui viennent aujourd'hui, ils prennent un moment pour eux, se faire plaisir et faire plaisir à la famille, les amis. Et c'est important.
Jette un coup d'œil du côté de votre stand. Je pense que là, vous allez être attendu,
Valérie. Il y a du monde, j'y vais.
Combien de temps pour fabriquer son gel douche?
Ça dépend, 20 minutes. Après, ça dépend en fait. Les enfants sont beaucoup, un peu plus lents. Parfois, en 5-10 minutes, c'est fait. Mais ce qui est sympa, c'est que les parents, ils aident les enfants. Et puis dans le groupe, chacun s'entraide. Donc ça aussi, c'est quelque chose de fort.
Je vais vous laisser regagner le stand parce que je pense que vous êtes attendu. Valérie Louin, on vous trouve sur les réseaux?
Oui, bien sûr, sur Facebook, Instagram. Naturopathe Valérie Louin.
Et loin comme loin.
Voilà.
Retour sur la Journée Verte 2023 à Douai dans la Puce à l'Oreille aujourd'hui. On parle musique dans un instant.
Je travaillais jusqu'aux aurores pour ramener l'argent, juste de quoi subsister, juste ce qu'il me fallait. Je ne pensais pas à ce jour, je ne croyais pas qu'il viendrait, que je serais là, mine prostrée, devant les grilles fermées. J'espère au moins que les grilles s'ouvriront ailleurs. J'espère au moins qu'elles donneront moins de douleur aux travailleurs, aux travailleurs. Je suis
suffoquait jusqu'aux aurores. Du temps, je lui en ai donné, je ne crois pas avoir eu tort. Mais quand je vois ses grilles fermées, c'est un peu de moi que je laisse, c'est un peu de moi que j'oublie. Derrière les grilles de nos promesses, moins séduisantes que leur profit. J'espère au moins que les grilles s'ouvriront ailleurs. J'espère au moins qu'elles donneront moins de douleur aux travailleurs, aux travailleurs. Affronter de nouveau l'aurore sans savoir ce qu'elle va m'apporter. L'épreuve est à ma portée. J'ai compris la loi du plus fort. Je sais qu'il faut savoir résister, que les paroles prononcées ne valent rien ou si peu dans la bouche des hauts placés. J'espère au moins que les grilles s'ouvriront ailleurs. J'espère au moins qu'elles donneront moins de douleur aux travailleurs, aux travailleurs, aux travailleurs, aux travailleurs.
Marc et les ogres de Barbac avec les grilles fermées. La puce à l'oreille, aujourd'hui retour sur la journée verte à Douai. C'était le 16 avril 2023, place Saint-Amé, avec le village associatif et festif. Et pour mettre l'ambiance, eh bien, il y avait entre autres le groupe Riverside.
C'est le groupe Riverside, le bord de la rivière. Ça tombe bien, on n'est pas très loin de la rivière.
Ouais.
La
Scarpe.
La Scarpe. Bah, ouais. C'est le nom de la radio, c'est ça?
Non. Et la radio s'appelle Radio Scarpe Sensé de
voilà,
Rivière.
Il y a deux rivières. Là.
Voilà. Alors, Riverside, hein, c'est quoi ça, cette aventure?
Alors, Riverside, bah, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Là, donc, il y a mon frère qui se trouve là-bas, là, en train de regarder les fleurs, qui joue du banjo, de la mandoline, de l'accordéon, tout ça. Ça fait 25 ans qu'on joue ensemble.
Il s'appelle comment le frangin ?
Pascal.
Pascal.
Pascal. Ouais. Et là-bas. Et puis Bruno, à la batterie et la planche à laver, la washboard. Voilà. Ça nous permet de laver nos chemises aussi, parce que là, on est bien sué, on s'est bien donné déjà.
C'est un groupe de folk acoustique.
Ouais, bah on appelle ça du folk and roll. On l'a inventé, voilà, on était les premiers à déposer le label. Je ne sais pas si ça existe. Mais donc un mélange de folk, un peu bluegrass, la folk, vieille folk américaine, folk irlandaise aussi. Et puis un petit côté rock and roll, bluegrass. On prend des vieux rock des années 50 et puis un petit peu de blues aussi. Ouais, voilà.
Et l'idée, c'est de fabriquer ça avec le moins de choses possible.
Voilà, ou... bah, en fait, c'est que des vieux instruments. Et là, donc, du coup. Le groupe, ça fait son temps qu'il existe, mais là, on a récupéré une belle charrette en bois, voilà, qu'on a retapée, qui était, on va les remercier parce que c'est un peu grâce à eux, c'est l'Opéra de Lille qui débarrassait d'un décor, en fait.
Ouais.
Donc, on a récupéré cette charrette il y a quelques temps, et puis là, comme il y avait cette opportunité, là, on trouvait que ça collait bien parce qu'on est déjà venu sur ce projet-là, Douai, avec d'autres, on a un manège à vélo aussi, c'est toujours les mêmes qui bossent dessus, on a pas mal de choses, compagnie marionnette, tout ça, et là, on s'était dit, cette journée verte, avec nos ballots de paille, la charrette et tout ça, ça va coller très bien. Donc on a bossé dessus, on a fini hier, et donc on a aménagé une belle, t'as dû l'avoir passé. Donc le truc c'est qu'on peut déambuler, donc moi je fais le cheval un peu, je tire la charrette pendant que les deux musiciens jouent derrière, dans la charrette, et puis à un moment on se pose, hein, parce que sinon comme ça je peux prendre la guitare, chanter, et puis voilà. Et puis divertir un peu les gens.
Le répertoire, il est construit, il est bâti pour justement pouvoir investir l'espace public.
Ouais, voilà, parce que c'est des trucs, c'est très entraînant, c'est que des instruments acoustiques, donc du coup, on a aucune sonorisation là. C'est pour ça que je suis un peu essoufflé, parce qu'il faut pousser la voix. C'est pas évident, parce qu'on a fait ça pendant longtemps avec mon frère au tout début, on n'avait pas de sono, donc on jouait. On faisait la manche et tout ça, on partait en stop, c'était il y a plus de 20 ans, donc c'était notre époque. Et après, c'est quand même plus confort de jouer sonorisé, d'avoir un micro. Donc là, il faut repousser un peu, et puis attirer les gens, en fait, ils nous suivent, ils suivent la charrette, et puis après, ils sont là pour
écouter. La compagnie s'appelle Les Valises dans les Poches.
Ouais, voilà, c'est Les Valises dans les Poches, ouais. Et puis Bricolo qui gère aussi tout le reste, le bricolage.
L'intention première de la compagnie, c'était quoi?
Alors, nous, en fait, comme je disais, ça fait en 95 qu'on a commencé à faire la musique avec mon frère, quand on était étudiant. Et puis, on a continué longtemps, on a fait d'autres projets, donc le manège à vélo, tout ça. Des valises dans les poches, c'est aussi le fil à la patte, c'est une compagnie marionnette qui a déjà joué ici l'année dernière aussi sur cet événement. Et donc, nous, en fait, le but, c'est vraiment de... faire plaisir aux gens, quoi. D'arriver, on arrive avec des grands sourires, on se marre, assez décontracté, et donc sans prise de tête, et à chaque fois, ça accroche. Des plus petits, les gamins qui se mettent à danser, toutes les générations, quoi. Ça c'est vraiment manqué bien.
Sans forcément beaucoup d'artifice,
ouais,
ça
voilà.
Reste quelque chose de très naturel.
Ouais, c'est vraiment, on arrive, c'est hop, 3-4, et puis c'est parti, et puis... Les gens, ils aiment bien, quand c'est comme ça, quand c'est authentique, on va dire, même si c'est un peu galvaudé, mais ce côté, déjà avec la charrette et tout ça, tout est en bois, il n'y a pas d'artifice,
ouais,
vraiment.
Ouais, et ça crée ça, un univers possible qui rend le rêve immédiat, enfin, il se crée magie, quoi, quelque part.
On embarque. En fait, Pino, moi, ce que j'aime bien, c'est pas juste jouer, c'est raconter une histoire aux gens. Donc on les emmène au bord de la rivière et puis après il y a tout un voyage, c'est pas juste maintenant on va faire cette chanson-là, c'est vraiment les emmener avec nous, les faire participer, on a fait taper dans les mains, tout ça, donc les embarquer sur notre charrette.
Voilà. Et cette rivière, elle pourrait couler dans quel pays?
Elle coule un peu partout, elle part d'Irlande, puis elle part aux États-Unis, donc ça passe par l'océan et après ça revient.
Qu'est-ce qui vous attire dans ce répertoire particulièrement? Qu'est-ce qu'il y a de sympathique?
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a que trois accords à chaque fois, et souvent les mêmes. Non, mais c'est vrai qu'on a... En fait, nous, quand je disais qu'on était partis en stop avec la guitare dans le dos, on savait à peine jouer, donc on avait appris... avec trois accords, on fait plein de chansons, hein.
Ouais.
Et donc, on est parti comme ça. Moi, j'ai appris à chanter et justement à accrocher le public dans la rue. L'école de la rue, c'est vraiment top, quoi. Donc, on faisait les terrasses, les rues piétonnes et tout ça, et on a tout appris là. Donc après... Après, quand on s'est retrouvé sur des scènes avec toute la sono, tout le truc, il n'y a plus qu'à faire des balances, c'est tout confort pour nous, quoi. Voilà. Donc, nous, c'est ça, c'est le direct.
Aujourd'hui, vous vivez de votre art?
Alors, ouais, moi, je suis intermittent, donc avec le manège à vélo, la musique, les marionnettes et tout ça. Et après, mes deux collègues, il y en a un qui est instite, professeur des écoles, donc mon frère, et Bruno qui bosse à la médiathèque départementale du Pas-de-Calais.
Que de faire tourner un manège en devant pédaler, ça demande un effort. C'est également la récompense du plaisir.
Ouais, c'est ça. Ouais. Attends, je suis un peu fatigué. Repose-moi la question.
Non, c'est la récompense.
Ouais.
Il y a du plaisir à pédaler à ce moment-là parce que la récompense, c'est de faire tourner le manège.
Ah, voilà, ouais. Ce manège, là, c'est les gamins qui pédalent. C'est ce qui est. Original, parce que souvent c'est les parents qui pédalent pour entraîner les manèges, et là c'est les gamins qui pédalent. Ça s'appelle un tour à biclou, voilà, et ça tourne, on est passé ici, et ça tourne un petit peu partout dans la région et ailleurs, quoi. Voilà.
À quel moment on pense justement à créer l'objet ou à d'amener, par exemple, la charrette, les trucs comme ça. C'est les opportunités.
Ah bah la charrette, c'est parce que j'ai reçu un mail d'un collectif de compagnie avec l'Opéra Lille, justement, qui avait une charrette parce qu'ils ont beaucoup de décors. Et leur entrepôt, il y a un moment, ils saturent. Donc, ils se débarrassaient de ça. Et j'étais le premier. Pour une fois, j'étais rapide. C'est un peu long à réagir, mais là, j'étais sur le coup. Donc, on a récupéré la charrette. Et après, on s'est dit, ah bon, maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Il a fallu un peu de temps, parce que je crois que ça fait 2-3 ans qu'on l'a. Mais on s'est dit, bah tiens, ouais, on va faire ce truc-là. Et ça colle bien. Et puis ça colle bien à l'esprit, en fait. C'est tout à fait ça, quoi. Ouais, on vous emmène la rivière, c'est parfait.
Aujourd'hui, la valise dans les poches, la compagnie, il y a combien d'artistes qui gravitent autour de
alors,
ce projet ?
Alors, là, déjà, on est nous trois pour le côté musical, le manège. Et après, il y a Compagnie Marionnette, où il y a un constructeur de marionnettes aussi, Olivier, et puis d'autres personnes qui portent. Selon les projets, on a des porteurs, parce qu'il y a une marionnette géante, on a des petites marionnettes, genre de troll, qui portent des grands sacs dans lesquels on est caché. Il y a 4-5 marionnettistes autour de ça. Donc c'est une petite structure, mais c'est bien pour nous, en fait, parce que ça permet d'avoir différents projets, mais que c'est pas trop lourd à porter, quoi. Moi, c'est par exemple, je fais la diffusion des spectacles. Donc, et du coup, comme tu disais, on galère en pédalant pour avoir la récompense, mais moi, je passe une partie de l'année à passer des coups de fil, rappeler Angélique, par exemple, qui organise l'événement, parce qu'on est déjà venu avec d'autres choses. Et au fur et à mesure...
Angélique, on va situer aux auditeurs, hein, c'est la coordinatrice de la ville de Douai.
Qu'on remercie, parce qu'elle nous a fait confiance, parce qu'elle a quand même pris un projet qui n'existait pas encore vraiment, quoi. On a fini la construction de la charrette hier vers 17h. Et donc, voilà. Donc, elle nous a fait confiance parce qu'on est venu justement avec d'autres spectacles de la compagnie. Et elle sait qu'on est là. Et puis surtout qu'on est là pour l'ambiance aussi.
Et quand les valises dans les poches ne se posent pas à côté de la scarpe, ça voyage beaucoup, ça va loin.
Justement, peut-être que tu vas les interviewer aussi. Il y a une compagnie qui vient de Tours, là, de marionnettes. Et en fait, ils nous ont accueillis il y a 2 ans à Charleville-Mézières, sur le Festival international de marionnettes, super, avec un spectacle de la compagnie Fil dans la patte, dans la poche. Et donc, ils sont venus là. Il y a le marionnettiste qui va passer tout à l'heure nous voir. Et puis, on retourne. Alors, on va faire un festival chez eux, du côté de Tours.
Vous irez faire un tour à Tours.
Puis, voilà, et ils nous réaccueillent cette année sur leur collectif à Charleville-Mézières. Un super endroit sur l'île.
Ça reste principalement au nord de Paris ou ça se déplace un peu partout ?
Avec les marionnettes, par exemple, on est allé au Danemark l'année dernière.
Ouais.
Grâce justement à Charleville-Mézières, nous avons vu les marionnettes, ils nous ont fait venir sur un festival au Danemark. Avec le manège, on est allé jusqu'en Corse, c'était chouette aussi. Et puis avec la musique, on aime bien aller en Bretagne et Normandie. Depuis presque 20 ans, on fait une petite tournée l'été là-bas, avec camping-car et tout ça. Et puis on fait des petits cafés-concerts, des petits festivals de la mer, des trucs comme ça. La Bretagne, c'est super chouette pour ça.
C'est justement ce que permet cette forme plutôt acoustique. Très vite, ça devient transportable.
Ouais, voilà.
Et ça peut envahir n'importe quel espace, moment.
Voilà.
On vous retrouve sur la toile. On peut voir. Il y a des trucs.
Donc, pour le groupe de musique, je crois qu'il y a juste un Facebook. Alors, le nom du groupe, c'est Riverside, mais il faut taper Music Riverside. Music à l'américaine et Riverside,
d'accord,
tout collé.
Ouais.
Et là, vous allez retomber sur le Facebook, parce que sinon, vous allez retomber sur. Je crois que Riverside, c'est un groupe de métal polonais, un truc comme ça. Donc, c'est pas ça. Et puis après, il y a un tour à Biclou. Là, pareil, vous trouvez, c'est pour le manège. Et puis. Des valises dans les poches, c'est l'asso qui gère, mais le filet à la patte, c'est pour les marionnettes. En fait, voilà. Donc voilà, on retrouve tout sur là-dessus.
Le groupe Riverside sur Radio Scarpe Sensée qui était donc venu pour ambiancer ce village associatif à l'occasion de la Journée Verte le dimanche 16 avril 2023, place Saint-Amé. À Douai, et c'est ainsi que s'achève aujourd'hui La Puce à l'Oreille. Merci de votre fidélité et à bientôt.
La Puce à l'Oreille.
C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour.
We are the children.
La La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.